Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, une invitée revient sur un jour important de sa vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, je reçois Clémentine Beauvais. Bonjour Clémentine Beauvais.
Bonjour Zoé.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Clémentine Beauvais, vous êtes écrivain pour la jeunesse. Vous dites écrivain ou écrivaine ?
Je dirais plutôt écrivaine maintenant, oui.
Alors, donc vous êtes écrivaine pour la jeunesse et professeure à l'université de York, en Grande-Bretagne. Sur votre fiche Wikipédia, on peut lire que vous avez plusieurs prénoms. Alors, vous avez Clémentine, c'est sûr, puis vous avez Morgane, Mélusine et Hécate. Ce sont des prénoms de fées ou de sorcières.
Oui, ça c'est mon père qui a une vision un peu particulière des prénoms. Alors ma mère l'a laissé se défouler sur les deuxièmes prénoms. Voilà, donc j'ai des prénoms, moi, qui sont des prénoms de grandes sorcières et enchanteresses du folklore et de la mythologie grecque.
Et ça veut dire que vous avez des pouvoirs magiques ?
Eh ben, c'est sûr que ça a dû conditionner mon intérêt pour certaines histoires de ce genre, oui.
Clémentine Beauvais, vous avez choisi comme journée particulière le 8 juillet 2000. Ce jour-là, le 4e tome de Harry Potter sortait en Grande-Bretagne et aux États-Unis.
La Pottermania a encore frappé. Cette maladie venue d'Angleterre a même poussé hors de leur lit plusieurs centaines d'Américains samedi dernier. Pour eux, un seul remède, tenir enfin le 4e tome de la saga Harry Potter. 2, 1, Harry Potter ! Ils ont 8, 9 ou 10 ans et dévoreront sans sourciller les 640 pages des aventures délirantes de leur petit magicien préféré. Harry Potter est un phénomène d'édition. En 2 jours, 3 millions d'exemplaires de ce type se sont vendus aux États-Unis. 2 pincées de traduction, quelques nuits d'impression et un zeste de magie. Au plus tard, la potion Harry Potter sera disponible en France en décembre prochain.
Clémentine Beauvais, c'était une archivina de juillet 2000. Vous aviez quel âge, vous, en 2000 ?
Là, je devais avoir 11 ans.
Et vous étiez où ?
Alors, cet été-là, j'étais aux États-Unis avec mes parents et c'était un peu un hasard en juillet 2000, je tombe sur ce 4e Harry Potter parce que je dois dire que je savais pas en fait qu'il était sorti aux États-Unis et en Angleterre à ce moment-là. J'étais déjà sur fan d'Harry Potter, ça c'est certain. Par contre, c'est au détour de la, on faisait un échange d'appartement, donc de l'appartement qu'on avait dans lequel on logeait, que j'ai trouvé le 4e Harry Potter dans la chambre, donc voilà, des deux dames qui nous avaient prêté leur appartement. Et je regarde ça et je dis, mais c'est le 4e Harry Potter. Et toute l'année précédente, en fait, j'avais passé de nombreuses fois j'étais passée à la Fnac Junior de Montparnasse pour demander, pour implorer les vendeurs de me dire quand sortait le 4e Harry Potter. Puis ils savaient pas, eux, les pauvres, ils se faisaient harceler par cette toute petite gamine qui leur demandait, il sort quand le 4e Harry Potter? Et là, j'arrive aux États-Unis et je trouve le 4e Harry Potter.
Et donc, par hasard, donc.
Ouais, enfin, il était là, quoi. Il était là, puis il était sorti.
Il vous attendait.
Ouais, il était là. Il m'attendait, et il était très beau, je me souviens, parce qu'il était en ce que les Anglais appellent hardback, donc comme on dit, en dur, quoi, en cartonné. Mm-hmm. Et je vois ce titre, Harry Potter and the Goblet of Fire, que évidemment je traduis immédiatement avec un calque terrible de Harry Potter et le gobelet de feu, ce qui évidemment n'a aucun sens en français.
Alors que c'est la coupe.
C'est la coupe, ouais, c'est une coupe de feu, c'est un mot un peu ancien pour ça. Et donc c'est comme ça que le 4e Harry Potter atterrit entre mes mains.
Et alors là, qu'est-ce que vous faites ? Vous le lisez en anglais ?
Et là, je le lis en anglais. Alors en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'étais super méga fan d'Harry Potter et j'avais lu les 3 premiers évidemment en français. Et j'avais fait, donc à l'époque, c'était l'été entre ma cinquième et ma quatrième, me semble-t-il. Et à l'époque, j'avais jamais rien vraiment lu en anglais d'autre que Apple Pie sixième et Apple Pie cinquième, qui étaient nos deux manuels d'anglais. Donc je savais très bien dire des choses du genre « Mom, Dad, where is the dog, Napoleon ?» Enfin, ce genre de choses, j'étais au courant. Et puis j'avais peut-être quelques verbes irréguliers en tête, mais c'était à peu près tout. Donc je me suis armée d'abord de passion et de patience et de ma motivation, et surtout d'un petit dictionnaire, anglais-français, français-anglais, un mini Robert E. Collins, il me semble. Et j'ai lu, j'ai foutu une paire royale à mes parents, puisque j'ai lu donc le quatrième Harry Potter en cherchant les trois quarts des mots dans le dictionnaire.
Ça vous a pris combien de temps? Vous n'avez pas dormi
Alors, il me semble que ça m'a pris à peu près un mois, quelque chose comme ça. Mais ce que je faisais en plus, c'est que je le lisais pendant la journée, donc je lisais des chapitres, et vraiment en les décryptant, mais comme une version latine. En fait, c'est marrant, plus tard, j'ai retrouvé dans les versions latines et grecques que je faisais ce même genre de travail, parce que c'est le genre de choses où il faut chercher tout, il faut se demander
alors ce que ça peut bien vouloir dire.
Comment c'est conjugué, enfin tous ces trucs. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le traducteur français, Jean-François Ménard, des livres Harry Potter, qui est excellentissime traducteur, a changé énormément des prénoms, des noms, des choses comme ça de la version. Donc déjà, moi, je savais pas ce que c'était Hogwarts, qui est donc Poudlard. Je savais pas ce que c'était Snape, qui est donc le professeur Rogue. Et ça, donc, j'ai dû le deviner d'après le contexte. Et c'était un long exercice, donc je faisais ça pendant la journée. Et le soir, je racontais à ma sœur en Playmobil les chapitres que j'avais lus, parce qu'il fallait bien transmettre cette information vitale à cette pauvre enfant qui n'y avait pas accès à l'âge de 7 ans. Donc,
alors, voilà. Dans Clémentine Beauvais, dans le quatrième tome, les choses se corsent, je crois, pour Harry Potter. Il est en danger de mort parce que tu sais qui, il ne faut pas dire le nom, hein, surtout pas, a réapparu. C'est ça un peu ce qui se passe dans le quatrième tome. Et donc, Harry Potter doit utiliser une certaine formule magique.
Expecto Patronum!
C'est la formule magique du sortilège du Patronus, c'est ça, c'est fait pour se protéger contre les créatures malfaisantes.
Alors ça, techniquement, c'est dans le troisième.
Il apparaît dans le troisième, ouais. Mais il s'en sert dans le quatrième.
Ah ouais, il s'en sert souvent. Ouais, il s'en sert souvent. Et le fameux Patronus de Harry, qui est l'un des grands sorts avec Expelliarmus, qui va être d'autant plus important dans les tomes plus tardifs. Mais ouais, ça faisait partie de toute la magie, de tout l'enchantement d'Harry, c'est sûr.
Vous avez été triste, non, quand vous l'avez terminé, ce quatrième tome de Harry Potter en anglais, même si ça ressemblait à une version latine ou grecque.
C'est marrant parce que j'ai très peu de souvenirs de ce que ça m'a fait de le terminer, le quatrième, à ce moment-là. Par contre, ce dont j'ai un souvenir très fort, c'est que j'ai imploré mes parents de me l'acheter. Et je me souviens que je les ai un peu persécutés pour qu'ils me l'achètent, parce que je disais, mais je veux. Et puis ils me disaient, enfin, eux, ils étaient un peu hallucinés que l'obsession, ça faisait quand même des mois et des mois qu'ils la subissaient à la maison. Et en plus que je les implore d'acheter un bouquin qui était cher, il coûtait 30$, je sais pas, c'était vachement cher. Et puis en plus, c'était un livre en anglais, je veux dire, ils avaient bien vu que j'avais commencé à le lire, ça c'est sûr, mais. Donc ils me l'ont acheté. Donc c'était mon premier exemplaire. Et je me souviens de la joie que j'avais eue d'avoir ce livre dans mes mains, que je l'avais mis dans l'avion, je l'avais avec moi dans l'avion, et je le portais. Et ça a commencé une espèce de culte de la collection des livres d'Harry Potter, parce que j'en fais maintenant collection, et j'en ai dans 18 langues différentes, il me semble. Je les achète. Et c'était très important pour moi que ça soit mon exemplaire.
Et vous avez acheté aussi celui quand il est paru en français ?
Je l'ai acheté en français, bien sûr. Et donc en novembre 2000, j'ai dû aller à la Fnac Junior, donc encore une fois de la rue Vavin. Oui, cette fois il y a moi encore cette sale gamine. Et donc là, c'est là que j'ai assisté à ma première ce qu'on appelait les Q party, c'est-à-dire les sorties à minuit. Et c'était très particulier.
C'est quoi?
En fait, ce que ça veut dire, c'était que le livre, au lieu de sortir le matin à l'ouverture des magasins, sortait à minuit dans un certain nombre de librairies en France et à Paris, en particulier là où j'étais. Et on y était allé avec mon père, qui était absolument ravi après une journée de travail entière d'aller traîner sa gamine à minuit à la Fnac Junior. Et donc, je me retrouve là-bas, Et c'était génial parce qu'on était, on était plein de fans d'Harry Potter, quoi. Et il y avait aussi beaucoup de journalistes qui étaient assez, assez dépassés par l'événement. Et c'est là qu'il m'est arrivé ma première déconvenue avec le monde des médias et de la presse.
Pourquoi ?
Je dois bien vous le dire.
Pourquoi ? Ce qui s'est passé,
il s'est passé quelque chose de très dramatique ce jour-là.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que j'arrive à minuit et donc je suis avec mon père. Et puis il y a là les caméras d'une émission de télé désormais défunte, mais qu'on regardait beaucoup à l'époque, qui s'appelait Exclusive sur TF1. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Exclusive sur TF1,
non ? Non, je ne m'en souviens pas.
C'est désolée. Fort dommage.
Bon, d'accord.
C'était un truc qui passait vers 7h, je crois, ou c'était avant le JT, en fait. Et donc, ils arrivent et ils commencent à poser des questions à tous ces gamins déguisés en, je sais pas, en personnage d'Harry Potter, qui se disent, mais qu'est-ce qu'ils font à minuit, un jour d'école ? Enfin, bref. Et donc, ils viennent me voir et puis ils me font une longue interview où j'explique que j'avais déjà lu en anglais, que j'étais super excitée, machin, tu vois, la fille trop motivée. Je me disais, ouais, je passais à la télé. Le rêve de toute jeune fille de 11 ans. Et dans au cours de l'interview, ils me demandent, mais vous trouvez pas qu'on fait trop de bruit autour d'Harry Potter, que c'est un peu n'importe quoi ? Et je leur dis, ah oui, c'est vrai que parfois ça peut être n'importe quoi, ça donne l'impression que ceux qui n'ont pas lu Harry Potter sont des idiots. Mais je ne savais pas, petite innocente que j'étais, que la télé, ça monte en fait. Moi, je pensais qu'il allait avoir toute mon interview de 10 minutes, non, exclusif le lendemain. Donc le lendemain, je m'installe devant la télé avec ma sœur et notre baby-sitter. Et puis j'étais super excitée, je fais ouais, ça va passer mon interview. Et puis la baby-sitter me dit, mais tu sais, ça risque d'être un peu monté, peut-être qu'ils t'auront coupé. Moi, je suis jamais là, ils m'en auront pas coupé. Et là, je passe à la télé, je vois mon image qui dit, ceux qui n'ont pas lu Harry Potter sont des idiots. Et là, c'était terrible, mais honnêtement, vraiment dur, parce que le lendemain, je suis arrivée au collège, et en fait, j'ai eu l'impression que tout le monde au collège avait regardé Exclusif. C'est-à-dire qu'une nana que je connaissais pas du tout a quand même traversé la cour pour venir me dire « Ouais, ça va pas de dire ça à la télé, moi j'ai pas lu Harry Potter, tu trouves que je suis une idiote ?» Et c'était la honte totale, quoi, et j'étais complètement dévastée par ce truc.
Et depuis, Clémentine Beauvais, comme on peut l'entendre, vous savez tenir votre langue dans les médias.
Alors maintenant, je fais gaffe à toutes les fractions de phrases que je dis, parce qu'on sait jamais, hein, franchement.
En 2000, Clémentine Beauvais, vous chantiez certainement cette chanson d'Eminem.
Excuse me. My name is. Can I have the attention of the class for one second? My name is. Hi, kids. Do you like violence?
Yeah,
wanna
yeah,
see
yeah.
me stick 9-inch nails to each one of my eyelids?
Uh-huh.
Wanna copy me and do exactly like I did?
Yeah,
try
yeah.
sit and get fucked up worse than my life is?
Huh?
My brain's dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which Spice Girl I wanna impregnate. And Dr. Dre said,
Slim Shady, you a basic.
Uh-uh.
So why's your face red? Man, you wasted.
Well, since age 12, I felt like I'm someone else, cause I hung my original self from the top bunk with a belt. Got pissed off and ripped Pamela Lee's tits off and smacked her so hard I knocked her clothes backwards like crisscross. I smoke a fat pound of grass and fall on my ass faster than a fat bitch who sat down too fast. Come here, slut. Shady, wait a minute. That's my girl, dawg. I don't give a fuck. God sent me to piss the world off.
Hi, my name is
what?
My name is
what?
My name is
his name is Shady.
Hi, my name is
what?
My name is
what?
My name is
his name is Shady.
Hi, my name is
teacher wanted to flunk me in junior high. Thanks a lot. Next semester I'll be 35. I smacked him in his face with an eraser. Chased him with a stapler. Stapled his nuts to a stack of paper. Walked in a strip club. Had my jacket zipped up. Flashed a bartender and stuck my dick in a tip cup. Extraterrestrial running over pedestrians in a spaceship while they screaming at me.
Let's just be friends.
99% of my life I was lied to. I just found out my mom does more dope than I do. I told her I'd grow up to be a famous rapper. Make a record about doing drugs and name it after. You know you blew up when the women rush your stands. Try to touch your hands like some screaming Usher fans. This guy White Castle asked for my autograph, so I signed it. Dear Dave, thanks for the support, asshole.
Hi, my name is
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 Une journée particulière. Zoé Barrier sur France Inter.
Clémentine Beauvais, alors vous chantiez cette chanson d'Eminem ou pas?
Ah oui, oui, j'aimais beaucoup Eminem à l'époque, vraiment, vraiment pas mal. Ouais, j'avais des posters et tout.
Ça cohabite bien avec Harry Potter.
C'est totalement la même veine.
Ah bon?
Non, mais non, pas du tout. Mais quand on est ado, on aime plein de trucs différents, c'est ça qui est bien.
Oui, on le verra un peu plus tard. Alors, le 8 juillet 2000, c'est votre journée particulière, Clémentine Beauvais. Ce jour-là, vous dévorez, enfin, vous lisez avec un dictionnaire anglais-français à vos côtés le 4e tome de Harry Potter, qui vient de sortir en Angleterre et aux États-Unis. Le 29 novembre, vous vous précipitez à Paris pour acheter en français, cette fois-ci, Harry Potter et la Coupe de Feu. Et figurez-vous, Clémentine Beauvais, que cette nuit-là, la nuit du 29 au 30 novembre 2000, France Culture diffusait sur son antenne de 22h30 à 7h du matin la lecture du tome 1 de Harry Potter par Bernard Giraudot.
Il y avait trois lettres. Une carte postale de Marge, la sœur de l'oncle Vernon qui était en vacances à l'île de Wight, une enveloppe de papier Kraft qui devait être une facture et une lettre pour Harry. Harry la contempla bouche bée. Son cœur faisait de grands bonds dans sa poitrine comme une balle en caoutchouc. De toute sa vie, personne jamais ne lui avait écrit. D'ailleurs, qui aurait pu le faire? Il n'avait pas d'amis, pas de parents autres que son oncle et sa tante. Il n'était même pas inscrit à la bibliothèque, ce qui lui évitait de recevoir des mots désagréables exigeant le retour des livres empruntés. Et pourtant, il avait entre les mains une lettre dont l'adresse ne pouvait prêter à confusion. « Monsieur Harry Potter, dans le placard sous l'escalier, 4, Private Drive, Little Wing, Surrey. » L'enveloppe, lourde et épaisse, était faite d'un parchemin jauni et l'adresse était écrite à l'encre vert émeraude. Il n'y avait pas de timbre. En retournant l'enveloppe, les mains tremblantes, Harry vit un seau de cire frappé d'un écusson qui représentait un aigle, un lion, un blaireau et un serpent entourant la lettre P.
Clémentine Beauvais, ôtez-moi d'un doute, vous connaissez Harry Potter par cœur?
En fait, il y avait une période où je connaissais tout le premier chapitre entièrement par cœur. Maintenant, mais parfois je le fais dans les écoles où je vais pour amuser les enfants. Je récite les deux premières pages.
Et comment réagissent les enfants?
Oh bah eux ça les fait rire parce qu'en fait ils sont encore très fans d'Harry Potter. Hein.
Ouais.
Ça continue. Ils écoutent comme ça, ils trouvent ça cool.
Alors vous êtes immédiatement devenue Potter maniaque. Je savais même pas que ce mot-là existait. C'est en préparant l'émission que j'ai découvert. Clémentine Beauvais, votre mère vous offre, c'est ça, hein, les trois premiers tomes de Harry Potter et là, poum, vous tombez dedans, c'est fini.
Ah oui, mais complètement. C'est vrai que c'était, j'ai jamais connu ça, ni avant ni depuis. Je pense c'était un moment, c'était une soirée. Mais vous me disiez tout à l'heure, vous vous souvenez de tous les détails. Ouais, il y a des moments dans la vie où on a une espèce d'intensification. On a l'impression. Je me souviens de l'odeur de la salle d'escrime où j'ai ouvert le premier livre et où je suis tombée dans ce premier Monsieur et Madame Dursley qui habitait au 4 Private Drive, etc., etc.
Et comment était l'odeur?
Ben c'était cette odeur très particulière de salle d'escrime qui est entre l'odeur de craie, de pied, de poussière, enfin un truc comme ça, de transpiration. C'est pas très agréable.
Vous souvenez de quoi comme ça, de vos lectures des premiers?
Les trois premiers. Donc le premier, je l'avais commencé à ce moment-là, je l'ai terminé le soir même. Et le deuxième et le troisième, je les ai lus le lendemain. Le troisième, je l'ai terminé dans la voiture qui m'emmenait dans notre maison dans le Pas-de-Calais avec mon père. Je m'en souviens très bien, mais je me souviens en plus que c'était la nuit et que du coup il avait fallu que je mette la petite lumière à l'intérieur de la voiture pour le lire et que mon père ça l'énervait parce qu'il conduisait mal avec la petite lumière. Enfin tous ces trucs qui n'ont aucune importance, mais qui sont le concentré des expériences de lecture dans l'enfance. Et je pense que, enfin, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas juste moi, enfin tout le monde a connu ça, avec quelque chose, pas forcément un livre, dans l'enfance, qui concentre autant de beauté et d'intensité.
Mince, j'avais pas vu l'heure. Désolé Harry, je vais devoir te laisser, Dumbledore attend impatiemment son... Enfin, il m'attend impatiemment. Bon, ton train part dans 10 minutes. Voilà ton billet. Ne le perds pas Harry, c'est très important, ne le perds surtout pas.
Londres, Poudlard, voie numéro 9, 3 quarts. Mais Hagrid, il doit y avoir une erreur. C'est écrit voie numéro 9, 3 quarts. Ça n'existe pas. J'ai raison.
Éloignez-vous de la bordure du quai.
Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous me dire où se trouve la voie numéro 9, 3 quarts?
La voie 9, 3 quarts? Plus de paix ma tête, c'est ça?
C'est tous les ans la même chose. La gare est pleine de moldus. Venez, la voie 9, 3 quarts, c'est par là. Excusez-moi! Est-ce que vous savez comment
Comment on se renvoie 9 3 quarts? Ne t'en fais pas, mon garçon. Renaud s'y va à Poudlard pour la première fois. Tout ce que tu as à faire, c'est marcher droit vers le mur qui est entre les voies 9 et 10. Et si tu as peur, le mieux, c'est de marcher très vite.
Bonne chance.
Clémentine Beauvais, vous espériez vous aussi qu'il existe une voie 9 3 quarts? Vous espériez que ce monde parallèle, caché peut-être, existe vraiment?
Oui, je l'ai beaucoup fantasmé, rêvé, rêvassé. C'était vraiment mes rêveries habituelles, on va dire, pendant de nombreuses années. Ce à quoi je rêvais, comme on rêvasse en classe, c'était Harry Potter, ça c'est sûr. Après, je pense que j'ai quand même toujours fait vraiment le distinguo. Je savais que c'était fictionnel.
Ouais.
Mais ça m'imprimait une espèce de nostalgie ou de mélancolie assez profonde, souvent dans mon adolescence, en fait. Je regrettais terriblement que ça soit pas un monde réel.
Ah. Et qu'est-ce qui vous plaisait? Les personnages, la magie, qu'est-ce qui vous a happé comme ça?
C'est très compliqué à expliquer Harry Potter. Je pense que c'est un mélange de vraiment beaucoup de choses. Il y a des faits qui sont d'ordre narratif, c'est-à-dire que c'est vraiment une histoire exceptionnelle. Et ça mélange des tas de genres, c'est une hybridité extraordinaire. C'est extrêmement bien écrit, ça c'est vraiment un truc. Je m'élève systématiquement contre les gens qui disent que c'est mal écrit. C'est hyper bien écrit, c'est d'une précision, c'est d'un pouvoir évocatif. Ça remonte à des modes d'expression qui sont ceux des contes, des légendes, des mythes. C'est vraiment très très bien écrit et en anglais on le voit notamment. Les personnages sont extrêmement attachants et extrêmement amicaux. Il y a une espèce d'impression de familiarité et ça je pense que c'est très important dans beaucoup de littérature jeunesse qui donne l'impression de retrouver des amis ou d'avoir des amis. Et puis pour les enfants qui étaient vraiment losers, pas très populaires, laissés sur le côté, il y avait aussi cette impression que Poudlard sera toujours la maison. Enfin, on était toujours là-bas. Puis c'est d'une grande complexité en plus, donc il y avait plein d'aspects d'histoire peut-être de détective, où il y avait des intrigues à résoudre, des choses comme ça, de l'aventure, de l'action.
Plein de choses. Mais vous, Clémentine Beauvais, vous aviez des amis? C'était vos amis? Enfin, Harry Potter, Ron, Hermione étaient vos amis? Hermione, vous l'aimiez bien?
Ah bah Hermione, je m'identifiais totalement à Hermione. Ouais, ouais, Hermione, c'était vraiment... Mais je pense que pour de très nombreuses jeunes filles de mon acabit, qui étaient à la fois très mademoiselle je-sais-tout, pas du tout populaire, et très appréciée des profs, mais pas des autres élèves, Hermione, c'était... Enfin, on aurait dit qu'elle était faite sur mesure pour nous, quoi.
Bien, bien. Oh, et prononcez Wingardium Leviosa. Allez-y.
Wingardium Leviosa.
Wingardium Leviosa.
Wingardium Leviosa.
Non, stop, stop, stop. Tu vas finir par crever un œil à quelqu'un. Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer. C'est Leviosa, et pas Leviosa.
Fais-le, toi, puisque t'es si intelligente. Vas-y.
Wingardium Leviosa.
Oh, bravo! Regardez tous, Miss Granger a réussi. Oh, splendide!
Clémentine Beauvais, vous étiez un peu, alors comme Hermione, une bonne élève, vous saviez un peu tout. Vous étiez quel type d'enfant?
Assez comme Hermione, assez autoritaire, Miss Je sais tout et compagnie, et toujours dans un bouquin, quoi. Quand elle lisait
dans un livre.
Ah ouais, tout le temps. Ouais, ouais. Quand elle disait, je l'ai lu dans l'histoire de Poudlard. Mais bon, si je l'aurais lu.
Et c'est vrai que vous aviez déjà écrit un roman, Clémentine Beauvais, à l'âge de 10 ans?
Oui, j'avais écrit un petit roman qui s'appelait La guerre des bonbons. Et après, j'en ai écrit un autre qui s'appelait Le pays oublié, qui était d'ailleurs très, très fantastique aussi, comme Harry Potter, mais c'était un petit peu avant de l'avoir lu. Ouais, ouais, j'écrivais beaucoup à l'époque déjà, ouais.
Et ça cohabitait avec Harry Potter?
Oui, et d'ailleurs, en fait, Harry Potter, mais encore une fois, c'est très important de dire que j'étais pas la seule. On était des milliers à faire ça. C'est ça qui est génial et on l'a découvert plus tard. On s'est découvert les uns les autres plus tard. Mais je faisais plein de fan art aussi, ce qu'on appelle maintenant du fan art, le fait de dessiner nos personnages. J'ai des carnets entiers de dessins de Poudlard, des personnages, de tout ça. Et j'avais fait un Monopoly Harry Potter. On avait fait des Harry Potter en pâte à modeler. J'avais fait un film d'Harry Potter avec des Playmobil. Enfin, ça donnait un désir de création, en fait, cette passion.
Et ce que vous dites aussi, c'est que ça vous a sorti de votre isolement.
Ouais. Ce qui est marrant, c'est que ça a vraiment concordé avec l'émergence d'Internet pour tous. Je crois que nous, notre premier ordinateur familial, on l'a eu en 2000 ou 2001, et avec Internet. Et là, j'ai découvert, et encore une fois, c'est par tâtonnement tout ça, mais j'ai découvert que si on tapait Harry Potter, je m'étais dit, bon, je vais regarder, si ça se trouve, il y a des choses sur l'Internet. Et là, j'ai découvert cet univers de gens comme moi, dans le monde entier, qui adoraient Harry Potter et qui s'en parlaient. Et on avait des forums où à la fois on échangeait des théories, mais aussi on parlait de nos vies. On avait des sites qui nous tenaient à jour de toutes les infos. J.K. Rowling a dit ça, il s'est passé ça. Et il y avait des podcasts, il y avait des podcasts qu'on écoutait. Il y avait la Gazette du Sorcier qu'on recevait tous les jours dans notre boîte mail. Et en fait, cette excitation gigantesque de découvrir qu'on n'est pas le seul, pas la seule à être fan de ce livre, qu'il y a plein de gens qui ont plein de théories à travers tout le monde. Et c'était, ça nous sortait d'un isolement. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, quand on est ado, et je le vois aussi aujourd'hui dans les écoles, on est dans un tout petit monde, un lycée, un collège, c'est minuscule. Les chances qu'on trouve quelqu'un, plusieurs personnes avec qui on entre en résonance sont très faibles. Moi, j'avais des amis très proches, c'est sûr, bien sûr, mais j'en avais peu, j'en avais deux ou trois qui étaient très proches. Et là, d'un coup, le monde s'ouvre avec Internet. Et au travers d'une passion, qui est celle-là, elle s'ouvre à des gens qui sont, je pense, fondamentalement bons aussi. Je pense qu'on c'est des gens qui sont très bienveillants, les fans d'Harry Potter. C'est un univers qui était très accueillant. Et ça a été très important pour moi à ce moment-là de mon adolescence. Très important. C'était très dur l'adolescence quand même. Donc d'un coup, il se passe quelque chose. On a cette bulle. Le soir, on sait qu'on va rentrer, qu'on va aller sur l'ordinateur et que va s'ouvrir ce monde bienveillant, gentil et passionné.
Et vous aviez des discussions sur Internet, sur les épisodes, sur la façon dont c'était écrit, sur les qualités littéraires du texte. Est-ce que ça vous a fait développer des compétences littéraires particulières d'avoir ces échanges avec d'autres fans de Harry Potter?
Ouais, en fait, moi, ma théorie, c'est que avec ce phénomène d'Harry Potter et ce qui se passait sur les forums et dans les podcasts, toute une génération, la génération des Potter maniaques, a développé des capacités de lecture qui sont en fait assez similaires au genre de réflexes qu'on doit avoir quand on fait de la théorie et de la critique littéraire. Et ça, je l'ai reconnu que plus tard, parce qu'évidemment, à l'époque, on le faisait de manière assez spontanée. Mais en fait, ce qu'on faisait quand on disait « je me demande si le personnage de Rogue va faire ceci ou cela », et qu'on allait analyser son comportement, ce genre de discours, ce qui n'était pas dit dans le texte, il y a plein de non-dits dans le texte, et qu'on extrapolait pour savoir ce qui allait se passer plus tard, mais c'est un réflexe d'analyse de personnage. Ou quand on analysait des structures narratif, c'était un réflexe de critique littéraire. Et aussi, quand on revenait, par exemple, à l'étymologie de chaque nom, qu'on était obsessionnel là-dessus, qu'on faisait de l'étymologie, encore une fois, c'est des pratiques qui sont courantes dans l'analyse de texte. Et je crois vraiment que ça nous a développé des, ce que Stanley Fish appellerait des communautés d'interprétation, qui sont éminemment littéraires.
Et aujourd'hui, Clémentine Beauvais, vous êtes professeure à York, de littérature aussi, et vous étudiez avec vos élèves Harry Potter.
On a un cours dans notre module en littérature jeunesse sur Harry Potter, absolument.
Ouais. Et ça, c'est pour casser tous les stéréotypes qu'on pourrait avoir sur Harry Potter. C'est-à-dire, c'est une langue qui peut s'étudier.
Ah bien sûr, mais absolument. Alors, stéréotype, je dirais peut-être plus en France qu'en Grande-Bretagne et aux États-Unis, où Harry Potter est vraiment étudié depuis des années et des années. Donc ouais, mais ce qu'on fait, c'est qu'on prend des extraits, puis on les lit de manière littéraire, c'est-à-dire à quoi ça fait écho, quelle est l'intertextualité là-dedans, comment ça fonctionne en tant que dispositif narratif, et ça.
Harry Potter and the Philosopher's Stone, Chapter 1, The Boy Who Lived. Mr. and Mrs. Dursley of Number 4, Privet Drive, were proud to say that they were perfectly normal, thank you very much. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious, because they just didn't hold with such nonsense. Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drills. He was a big, beefy man with hardly any neck, although he did have a very large mustache. Mrs. Dursley was thin and blonde and had nearly twice the usual amount of hair.
Mirror, mirror, on the wall, don't say it cause I know I'm cute.
Oh, baby.
Louis down to my drawers, LV all on my shoes.
Oh, baby.
I be dripping so much sauce, gotta be looking like Grey Goose.
Oh, baby.
Lit up like a crystal ball, that's cool, baby, so is you, that's how I roll.
If I'm shining, everybody gonna shine. Don't even gotta try.
Now you know.
I like shouting naked better over time.
Now you know.
They just say I'm not the baddest bitch you like.
Ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. Ain't my fault that I'm out here making news. I'm the
particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Alors c'est la journée particulière aujourd'hui de Clémentine Bouvet, écrivaine hein, pour la jeunesse. Alors vous aviez choisi comme journée particulière le 8 juillet 2000, vous vous lanciez dans la lecture de Harry Potter en anglais, Harry Potter et la Coupe de Feu. Cette même année 2000, la chanteuse Alizé faisait un tabac avec sa chanson très connue, Moi, Lolita.
C'est pas ma faute, et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres, tout prêts à se jeter sur moi, c'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, Hello Elitea, moi Lolita. Moi je m'appelle Lolita, collégienne au bar.
Bon, alors vous connaissez aussi par cœur Clémentine.
Entièrement par cœur, oui. Ça,
ça fait partie de votre adolescence.
Oui, ah oui, absolument.
Ouais. Harry Potter, Alizé, Graine de Star, hein, c'est sur Graine de Star qu'on l'a découverte, Alizé, c'est ça? Mylène Farmer.
Oui, c'est Mylène Farmer qui l'avait découverte.
Ouais, qui l'a repérée. Et alors, c'est une adolescence comme ça, à chanter I'm a Baby Girl, In the Baby World, à regarder Star Academy. J'ai du mal à vous imaginer comme ça, Clémentine Bouvet.
Et pourtant, non, c'est vrai que c'était la culture des ados des années 2000, quoi. C'était vraiment ça. Et puis on jouait aux Sims, et puis on jouait à Lara Croft. Et qu'est-ce qu'on faisait d'autre? Ouais, on portait des robes sur des pantalons, on trouvait très cool.
Et ça, c'est juste à l'opposé de l'univers que vous décrivez et de ce qu'on retrouve dans vos romans. Moi, quand j'entends « Moi, Lolita » et quand je pense à « Vos petites reines », qui est le titre d'un de vos romans, qui a reçu plein de prix littéraires, combien de prix?
Oh là, je sais pas exactement.
Mais plusieurs, hein.
Ouais, il en a eu.
Et le prix du meilleur roman jeunesse, hein, c'est ça?
Du magazine Lire, ouais.
Ouais, c'est ça. Alors, dans « Les petites reines », c'est tout sauf des Lolitas. C'est
ouais, absolument.
Tout sauf des baby girls, des Barbie girls, c'est trois boudins.
C'est trois boudins, ouais. Mais moi, j'étais pas du tout une Lolita non plus. Hein. C'est pour ça que
c'est
je
vrai,
pense qu'il y a un côté, il y a un côté aspiration quand on écoute Alizé. Et puis, c'est vrai que c'était, de toute façon, quand on est ado et qu'il y a des stars qui sont toutes belles, toutes mignonnes et qui chantent Moi Lolita, on est très impressionnés. Mais moi, j'étais vraiment moi boudin. Enfin, c'était comme ça. Enfin, c'est pour ça que les petites reines, ouais, c'est les questions de trois filles qui sont élues boudin d'or, boudin d'argent et boudin de bronze de l'année de leur collège Marie Darieussecq de Bourg-en-Bresse.
Ouais. Et parce qu'elles sont grosses, moches,
laides aussi, enfin d'après le garçon qui les a élues. Mm-hmm. Et donc elles vont décider plutôt que de se morfondre, de prendre des vélos et d'aller de Bourg-en-Bresse à Paris en vendant du boudin sur la route pour aller s'incruster à la garden party de l'Élysée de la présidente de la République.
Ouais, mais alors elles font pas ça pour maigrir. Elles font pas du vélo pour maigrir, elles font pas du vélo pour devenir des jolies jeunes filles, elles font du vélo pour devenir elles-mêmes.
Ouais, c'est vraiment un road trip d'initiation où elles vont devenir, puis aussi devenir amies, et puis elles ont toutes les trois quelque chose à faire quand même à la garden party, que je ne fais pas spoiler.
Non.
Bon, y en a une qui doit aller voir le concert d'Indochine, ce qui est quand même une très, très bonne motivation pour faire 500 km à vélo.
Oui, il y a une fan d'Indochine dans les trois boudins.
Voilà, et puis elles vont partir, et voilà, c'est une comédie, vraiment une comédie... assez ensoleillé, ouais.
Mais c'est un peu plus que ça, parce qu'il y a des journalistes qui les suivent, il y a toute le cirque médiatique qui se met en place, et puis il y a une blogueuse féministe aussi qui les suit. Et je me suis dit que le féminisme avait une place importante encore dans ce livre, avec ce choix de faire de vos héroïnes des boudins, et puis avec ces jeunes filles qui refusent d'être, qu'on les catégorise comme ça.
Ouais, c'était évidemment très important, ça c'est sûr, dans le livre. Et puis la blogueuse féministe en question va...
Simone de Gouges.
Simone de Gouges, selon son pseudonyme, va aussi faire, je pense, vocaliser certaines choses qui étaient restées impensées par l'héroïne Mireille. C'est-à-dire le fait que, voilà, que valoriser le sport, l'amitié entre filles, c'est aussi quelque chose de chouette. Et pas seulement, justement, les Lolitas.
The Article 50 process is now underway. And in accordance with the wishes of the British people... The United Kingdom is leaving the European Union. This is an historic moment from which there can be no turning back. Britain is leaving the European Union.
Alors là, Clémentine Bouvet, vous venez de perdre votre joli sourire que vous avez sur le visage.
En fait, je ne m'attendais pas à entendre cette voix enchanteresse.
De Theresa May.
De Madame May, oui.
Alors c'était le 29 mars, c'est une archive du 29 mars 2017, 9 mois. après le référendum sur le Brexit. Theresa May, que vous remerciez d'ailleurs dans votre dernier livre, Brexit Romance. Vous la remerciez, elle et David Cameron, pour leur clownerie. Leur inspirante clownerie. Et vous remerciez aussi les 48% de Britanniques qui ont voté contre le Brexit. Ce qu'il faut dire, Clémentine Beauvais, c'est que vous vivez, vous, aujourd'hui en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, et que tout ça, vous l'avez vécu, vous ?
Ouais, donc je vis là-bas depuis 13 ans c'est beaucoup 13 ans, surtout quand on est parti à 17 ans, c'est toute ma vie adulte en fait. Et c'est vrai que c'était particulier quand même, c'était une autre journée particulière cette journée du Brexit. Je pense que ce qui est très choquant, c'est que quand on part en Grande-Bretagne, la première chose qui frappe, c'est à quel point c'est accueillant en fait comme pays, et à quel point justement les étrangers sont non seulement tolérés, mais vraiment considérés comme une plus-value, comme une valeur ajoutée. Puis ils sont très pragmatiques en plus, les Britanniques. C'est une caricature, mais c'est vrai. C'est-à-dire que pour eux, ils font avec quoi, et c'est très bien. C'est tout à fait normal d'avoir des tonnes de collègues qui ont des accents parce qu'ils viennent de partout dans le monde, d'avoir des étudiantes partout, etc. C'est vrai que le Brexit, ça a été un choc parce que d'un coup, on se dit, mais c'est pas vrai, on est entouré de gens comme ça. Et c'est là que je me suis aperçue que moi, à York, j'étais littéralement entourée de Brexiteurs. Parce que le Yorkshire, c'est un océan de livres de gens qui ont voté pour le Brexit. Donc, d'un coup, il y a quelque chose qui change dans cette dynamique. Après, on s'aperçoit aussi qu'on est on a des valeurs différentes en tant qu'immigrant. Moi, immigrante française universitaire. C'est pas moi le problème, me dit-on. Mais évidemment, il y a une xénophobie très forte, par exemple, contre les Européens de l'Est, et notamment ceux qui ont des jobs qui sont pas aussi glorieux et prestigieux que universitaires. Donc on s'aperçoit qu'on fait partie d'une communauté qui est très hétérogène et qui est pas regardée de la même manière selon d'où on vient. Donc ouais, c'était dur le Brexit et l'après-Brexit.
Et vous arrivez à en parler avec tous ces Brexiteurs qui vous entourent ? Vous arrivez à avoir des discussions
C'est compliqué quand même. Hein. C'est vraiment compliqué. C'est marrant parce que ça m'est pas arrivé depuis un an, parce que aux alentours du Brexit, on en parlait quand même pas mal, parce qu'il y avait plein de gens qui avaient voté pour le Brexit, puis qui disaient que c'était le cas, puis qu'il y avait des arguments assez du type we're gonna get our country back, on va récupérer notre pays. Et puis il y avait aussi des bons arguments, entre guillemets, de gauche. Alors c'est ce qu'on appelle les Lexit, c'est les Brexiteurs de gauche, du left, et qui étaient plutôt d'ordre anti-mondialisation, etc., et qui étaient contre les directives de l'Europe. Ça peut se comprendre, moi, franchement, je l'entends, ce genre d'argument. Mais là, c'est devenu de plus en plus difficile parce que ceux qui s'accrochent encore au Brexit après tout ce qui s'est passé depuis, enfin la clownerie totale, ils sont au-delà du dialogue. Et là, j'ai eu récemment une confrontation assez forte avec un Brexiteur qui vraiment était, c'était de l'ordre de la fake news constante, de l'agression verbale. Et j'ai pas de patience pour ça, quoi.
Et c'est ça qui vous a inspiré vraiment votre dernier roman, Brexit Romance. C'est vous êtes partie de ce vote pour le Brexit, de cette majorité qui décide de quitter.
Et ouais, alors en fait, le Brexit Romance, c'est venu très vite après le Brexit, et c'est venu de discussions qu'on avait avec des potes. On était pas mal de couples britannico quelque chose, donc britannico-français, britannico-allemand et tout. Et puis on riait jaune, quoi, mais on disait que il était temps de se marier avec les Britanniques pour qu'ils puissent obtenir le passeport, les pauvres qui allaient quitter l'Europe. Puis finalement, c'est devenu une situation narrative à haut potentiel, selon moi, de screwball comédie, de comédie politique, de comédie romantique, et j'ai écrit Brexit Romance. Ce qui m'intéressait aussi dans Brexit Romance, cela dit, c'était aussi de parler du fait que on pouvait être évidemment contre le Brexit, mais qu'il fallait aussi comprendre d'où venait ce vote Brexit, qui venait aussi de mesures d'austérité extrêmement violentes qui avaient été imposées sur le pays depuis des années et des années par d'abord Cameron et compagnie, mais même avant, jusqu'aux les nouveaux travaillistes de Blair et compagnie, Thatcher. On a quand même une longue histoire de violence sociale, de violence contre son propre peuple. Donc je pense que c'était important aussi de parler de ça, que l'Angleterre, c'est pas juste Londres. Et dans Brexit Romance, ils partent dans le Yorkshire, parce qu'il se passe des choses différentes dans les régions, et la manière dont on perçoit l'Europe est pas la même dans un pays où il n'y a pas un drapeau européen qui flotte. Moi, j'ai jamais vu de drapeau européen en Grande-Bretagne, ouais, même avant le Brexit. Enfin, c'est quand même dingue. Il n'y a pas un truc sur des bâtiments qui sont financés par l'Europe. Il y a une plaque qui dit financée par l'Europe dans les toilettes, quoi. Enfin, j'exagère à peine.
Alors, ça vous a donné cette idée, donc, de proposer à des Européens de se marier avec des Britanniques pour qu'ils puissent encore avoir un passeport européen et sortir de ce pays. C'est ça, l'idée du départ de votre roman Brexit Romance. Je lis juste le début. Vous voulez me le lire? Juste ça, le tout début. C'est l'annonce qui est postée sur Internet.
Amis britanniques, la tragédie du Brexit a frappé nos vies et nous serons bientôt déprivés de nos passeports européens. Mais dans ce monde qui ne fait pas de sens, nous nous identifions à une jeunesse cosmopolitaine internationale et nous ne voulons pas perdre le privilège de travailler et vivre dans un autre pays européen. Nous voulons un passeport européen. Nous, c'est Justine et Matt Dodgson, 20 ans. Nous sommes des gens cool de Londres. Sur cette page Facebook, nous implorons aux Français et Françaises qu'ils veulent bien nous épouser. nous offrons à toute personne intéressée de venir vivre et travailler 5 ans en Grande-Bretagne, de partager notre logement avec elle et tous les frais de mariage. Et ensuite, de divorcer quand la nationalité française est obtenue. Et la britannique de votre côté, si vous voulez. On ne demande pas d'amour ou de sexe, juste un bon copain ou une bonne copine pour partager du bon temps ensemble pendant 5 ans et ensuite rester amis. Un colloque with benefits. Of a kind. Merci.
Voilà, c'est ça.
Je précise quand même que les erreurs de langue sont dues au fait que c'est écrit par des Britanniques qui parlent pas parfaitement le français. Je voudrais pas qu'on croie que...
Mais vous vous amusez bien justement avec ça. Et c'est très joli parce que vous amusez de ces différences et de ces erreurs de traduction aussi bien en français qu'en anglais.
Ouais, exactement. Et puis c'est aussi toute la poésie de ces petits anglicismes et de ces petits calques.
Alors, il y a un personnage très joli dans ce roman, c'est une jeune fille française, toute naïve, qui découvre l'Angleterre. Elle vous ressemble aussi un peu ? C'est un peu le regard que vous aviez sur l'Angleterre quand vous êtes arrivée à 17 ans ?
Oui, je pense que Marguerite, elle est vraiment très proche du genre de romantisme de l'Angleterre que j'avais à l'époque, ça c'est sûr. Elle est quand même vraiment plus ou à blanche que je l'étais, je pense, mais elle est très passionnée et fascinée par l'Angleterre, disons l'Angleterre d'Austen et de Bronte et de Harry Potter, l'Angleterre en fait qui est un idéal aristocratique de l'Angleterre qu'ont beaucoup de Français d'ailleurs, hein, le charme des loges de chasse, des motifs liberty et des tea parties et du croquet sur la pelouse, qui est vraiment un imaginaire aristocratique.
Voilà, il y a tout un chapitre où il est question de thé et de scènes de cricket. Alors évidemment, impossible de ne pas songer à Lewis Carroll.
Qu'un pasteur anglican se trouve être par surcroît distingué professeur de mathématiques et logicien spécialisé, il n'en faut pas davantage pour que le non-sens fasse son apparition dans la littérature, ou tout au moins y marque une réapparition éclatante. La complaisance envers l'absurde rouvre à l'homme le royaume mystérieux qu'habitent les enfants. Il y va de la résistance foncière que l'enfant opposera toujours à ceux qui tendent à le modeler, par suite à le réduire, en limitant plus ou moins arbitrairement son magnifique champ d'expérience. Tous ceux qui gardent le sens de la révolte reconnaîtront en Lewis Carroll leur premier maître d'école buissonnière.
Clémentine Beauvais, c'était une lecture d'un extrait de l'anthologie de l'humour noir d'André Breton. Est-ce que pour vous aussi, Lewis Carroll préserve le sens de la révolte pour vous ?
Ah, c'est sûr. Enfin, Lewis Carroll, c'est vraiment. C'est une figure de proue non seulement de la littérature jeunesse en général, ça l'est toujours, mais aussi de ce qui fait une espèce de. J'aime pas parler d'essence d'un peuple, parce que ça n'a pas de sens, mais c'est quand même ça représente ce que c'est d'être british dans tout l'aspect le plus fantasque, fantaisiste, original. Et c'est pour ça que ça fascine aussi beaucoup. C'est un peu la Grande-Bretagne que tout le monde aime, mais pour une bonne raison, c'est-à-dire que c'est évidemment radical et transgressif, et pourtant ça s'arrange quand même pour être drôle, ça s'arrange quand même pour être léger, pour cultiver une distance, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on vit quand même au quotidien en Grande-Bretagne.
Parce que Alice est justement une petite fille insoumise, elle fait tout ce qui ne se fait pas, elle pose les questions qu'on ne doit pas poser, elle coupe la parole, elle est vraiment, elle va contre les règles des adultes tout le temps.
Et ouais, il y a Alice qui se perd dans cette rêverie où elle est toujours en train de se dire mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde, tout le monde est fou. Et en même temps tous les autres personnages qui sont eux aussi des critiques, des questionnements à eux-mêmes, c'est vraiment tous les personnages sont des points d'interrogation dans ce livre. Ouais. Et c'est drôle aussi quand on voit tout le réseau intertextuel de Carol qui parodiait des comptines très religieuses, très didactiques d'Isaac Watts avec ça devient un petit crocodile sur les bords du Nil. Enfin ça correspond à vraiment un moment de la littérature, de la célébration de la transgression. Ouais.
Donc on ne s'est pas trompé. Vous aimez Lewis Carroll.
Ah mais bien sûr.
Vous êtes carolingienne, comme dit Jacques Prévert.
On peut dire ça, d'accord. Ouais, bien sûr. Et puis d'ailleurs, les jumeaux s'appellent Dodgson parce que c'est le nom de Lewis Carroll et tout le livre Brexit Romance reprend plein d'épisodes d'Alice, ouais, dont le lapin blanc.
Merci Clémentine Beauvais d'avoir passé cette heure avec nous. Votre dernier livre, Brexit Romance, et tous les autres d'ailleurs, hein, si je me trompe, sont publiés aux éditions Sarbacane. Votre bibliographie est sur le site de l'émission. Voilà. C'est fini.
Merci.
C'était une journée particulière. Une émission préparée par Hugo Combes, conseiller spécial et expert en Harry Potter. Alina Anne Delaveau à la réalisation, Flora Bernard à la programmation musicale, Djoubaka, et à la technique, Jérémy Guillon. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster toutes les émissions sur le site de franceinter.fr. À la semaine prochaine.